Bonjour, comme tous les premiers mercredis du mois à 12h30 puis 17h30 sur Fréquence 7, voici la rubrique Claire d'étoiles présentée par l'association Claire d'étoiles et Brin de Jardin. Aujourd'hui, c'est avec Marilyn.
Et avec Daniel. Bonjour à toutes et tous.
Nous voici déjà en juin, mois du solstice d'été pour notre hémisphère. Ce solstice correspond au moment de l'année où le soleil monte au plus haut dans le ciel et éclaire pendant une durée maximale. C'est donc le jour le plus long de l'année. Dans l'hémisphère nord, il se produit le 21 ou le 22 juin.
Ce phénomène astronomique s'explique par l'inclinaison de la Terre. Pendant le solstice d'été de l'hémisphère nord, la planète se situe à un point de son orbite auquel le nord de son axe de rotation pointe le plus vers le Soleil. La Terre présente donc son pôle nord au Soleil et cache son pôle sud. Ce qui implique que, à cette période, le soleil ne se couche jamais sur l'Arctique et ne se lève jamais sur l'Antarctique.
À notre latitude, le soleil se couche, mais très tard, et les astres de la nuit ne sont visibles que de 22h30 à 5h. Exception faite de la Lune présente dès 22h, ce 2 juin, au-dessus de l'ouest-nord-ouest. Un petit quart d'heure de patience permettra à la nuit de mieux se faire et on pourra distinguer deux astres assez brillants, soulignés par un joli croissant lunaire. Ce sont les étoiles principales de la constellation des Gémeaux. Au-dessus de la Lune, à droite, c'est l'étoile Castor. À gauche, et plus brillante, c'est Pollux. Nous les retrouverons dans le ciel de l'hiver prochain.
Entre-temps, prenons quelques marques dans le ciel de cette fin de printemps. La Grande Ourse se trouve très haut dans le ciel, proche du zénith. Sa forme de casserole, bien identifiable, permet de retrouver l'étoile Arcturus de la constellation du Bouvier. Il suffit de suivre le manche de la casserole en continuant sa courbure pour tomber automatiquement sur cette magnifique étoile rouge-orangée. Arcturus est une géante rouge en fin de vie, âgée d'environ 10 milliards d'années et située à 36 années-lumière. Même si sa température de surface est moins élevée que celle du Soleil, elle est 25 fois plus grande que lui et c'est l'une des étoiles les plus brillantes de notre ciel. Une fois ce phare repéré haut dans le ciel sur le sud-sud-est, on verra plus bas vers le sud l'étoile Spica de la Vierge. Son nom évoque l'épi tenu par Déméter. Si elle n'est que 8 fois plus grande que le Soleil, elle est 11 fois plus massive que lui et sa température de surface est plus de 3 fois plus élevée, d'où sa couleur blanche. À l'opposé d'Arcturus, au-dessus de l'est-nord-est, voici l'une des trois belles d'été, l'étoile Vega. Elle est un peu plus grande que le Soleil et un peu plus chaude en surface, d'où sa teinte légèrement bleutée qui saute aux yeux lorsqu'on la compare à la rouge Arcturus.
Côté planète, il n'y en a toujours pas dans le ciel du soir, mais durant les aubes de la première semaine de juin, au-dessus de l'est-sud-est, on remarquera facilement le point rouge de Mars, tout proche de la très brillante Jupiter. Après leur conjonction du 30 mai, Mars s'éloigne chaque jour vers l'est. Même si le 2 juin, les deux planètes paraissent encore très proches, cette proximité n'est bien sûr qu'apparente, puisque Mars sera à leur distance d'un peu plus de 217 millions de kilomètres, tandis que Jupiter, plus de 3 fois plus éloigné de nous, se trouvera à près de 790 millions de kilomètres. Durant ce mois de juin 2022, la Lune, au fil de sa course autour de la Terre, aidera à repérer les planètes avant que le ciel ne soit trop clair, c'est-à-dire au plus tard autour de 5 heures du matin. Les 18 et 19 juin, une grosse Lune gibbeuse passera de part et d'autre de Saturne, au-dessus de l'horizon sud.
Le 21, le dernier quartier se trouvera à droite de Jupiter, au-dessus du sud-est.
Le 22, le gros croissant aura dépassé la planète géante et sera entre Jupiter à sa droite et Mars à sa gauche.
Le 23, le croissant de Lune jouxtera la planète rouge.
Le 26, il rendra visite à l'éclatante Vénus. Et le lendemain, un très fin croissant lunaire permettra de repérer la discrète Mercure qu'il dominera juste au-dessus de l'horizon est-nord-est. Au matin du 27 juin, à partir de la Lune, on pourra donc repérer toutes les planètes visibles à l'œil nu, réparties sur une courbe montant vers le sud. Mercure tout près de l'horizon, puis Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.
Venons-en maintenant au focus du jour, les satellites Starlink. Entre les étoiles, les planètes et la Lune, satellites naturels de la Terre, de nombreux points plus ou moins lumineux filent dans le ciel. Lorsqu'on les voit clignoter, ce sont des avions dont on peut d'ailleurs parfois percevoir le bruit. Lorsqu'ils glissent régulièrement et silencieusement sur la voûte céleste, ce sont des satellites artificiels reflétant la lumière du Soleil. Plus d'une dizaine de milliers de ces objets plus ou moins volumineux, fabriqués par les humains, tournent autour de la Terre à des fins de prévision météo, télécommunications, observations militaires et scientifiques, etc.
Depuis 2019, la société américaine SpaceX, fondée en 2002 par le milliardaire Elon Musk, envoie des satellites Starlink avec ses propres véhicules de lancement spatiaux réutilisables nommés Falcon 9. Starlink est une méga constellation de satellites destinés à fournir un accès Internet partout sur Terre, à des tarifs soi-disant abordables. Mais résumons d'abord les caractéristiques de ces satellites.
Chacun des satellites Starlink pèse moins de 300 kg et fait approximativement la taille d'une machine à laver, avec antennes et système de propulsion, dont part un unique panneau solaire de plusieurs mètres une fois déplié. Pour constituer un maillage de liaison Internet au-dessus de toute la planète, sont prévus pas moins de 12 000 satellites, voire 42 000. Lancés par lot de 49 à 60, empilés les uns sur les autres, la grappe de satellites est envoyée dans un premier temps à 210 km d'altitude. Ceci permet de se débarrasser rapidement de satellites éventuellement défaillants en les laissant naturellement rentrer dans l'atmosphère où ils se consument. Les survivants s'éloignent lentement les uns des autres, puis il est procédé aux manœuvres leur faisant prendre de l'altitude jusqu'à celle de travail qui est de 550 km environ. Les nuits après leur lancement, ce sont ainsi de véritables trains de satellites que l'on voit traverser le ciel. Actuellement, on estime qu'il y a 2000 satellites Starlink actifs.
Et pour les utiliser, il faut s'équiper d'un kit composé d'une petite parabole motorisée avec réseau d'antennes, câble Ethernet et briques d'alimentation. Le tout déjà branché et livré à domicile. Ce kit est facturé près de 560 euros, frais d'expédition compris, à quoi il faut ajouter ensuite un abonnement mensuel de 99 euros. Et ces tarifs seront revus à la hausse. Elon Musk ayant annoncé une augmentation due à la pénurie de composants. Pour celles et ceux qui en auraient les moyens, encore faut-il habiter une région peu peuplée, car, selon certaines études, cette technologie n'est dans l'ensemble pas adaptée aux zones denses, comme les villes par exemple.
De plus, le déploiement de cette méga constellation de Starlink pose des problèmes et soulève des controverses. Premièrement, en raison des risques avérés de panne, perte de contrôle, augmentation de débris spatiaux, rencontres rapprochées et collisions que ce très grand nombre de satellites fait peser sur l'activité des satellites en orbite basse. Cette dernière est en effet la plus utilisée par la plupart des autres satellites, y compris la Station spatiale internationale, autour de 400 km d'altitude. Dès 2019, l'Agence spatiale européenne a dû ordonner à l'un de ses satellites d'effectuer une manœuvre pour éviter une collision avec Starlink 44. En juillet et octobre 2021, c'est la Station spatiale chinoise qui a effectué des manœuvres pour éviter de possibles collisions avec un satellite Starlink. Le 3 février 2022, un lot de 49 Starlink a été lancé. Mais le 4, une tempête solaire a touché la magnétosphère terrestre. La dilatation atmosphérique résultante a provoqué un freinage brutal des satellites. Dans l'incapacité d'accomplir leur rehausse d'orbite, 40 d'entre eux se sont consumés en rentrant dans l'atmosphère, selon une communication de SpaceX, qui n'a pas précisé l'état des 9 Starlink restants.
Il y a aussi de sérieux problèmes de pollution lumineuse. En effet, non seulement ces trains de satellites striant l'ensemble du ciel cachent déjà beaucoup la beauté de la nuit pour tout un chacun, mais cela gêne aussi grandement les observations des astronomes professionnels et amateurs. Les paysages de nuit sont zébrés d'une multitude de raies lumineuses. Les télescopes professionnels subissent des perturbations qui non seulement empêchent l'observation du ciel profond, mais aussi nuisent à la détection d'astéroïdes potentiellement dangereux en rendant des parties d'images inutilisables.
Elon Musk dit prendre au sérieux les protestations de nombreux organismes, Mais les pistes de solutions évoquées par SpaceX ne paraissent toutefois pas convaincantes. Début avril 2022, les associations Priatem et Agir pour l'environnement ont crié victoire lorsque le Conseil d'État a annulé les autorisations d'attribution de fréquences hertziennes à Starlink données par l'ARCEP en 2021.
Précisons que l'ARCEP est l'autorité de régulation et des communications électroniques et des postes, qui, au nom de l'État et sous le contrôle du Parlement, a pour rôle de réguler le marché des opérateurs de téléphonie, d'Internet et des postes. Dépendant des autorités administratives indépendantes, elle échappe à la tutelle ministérielle et remplit ses fonctions a priori en totale indépendance et impartialité.
Oui, mais l'annulation d'autorisation du Conseil d'État repose moins sur des critères écologiques que sur le fait que l'ARCEP n'a pas procédé à une consultation du public avant d'accorder l'accès aux fréquences à Starlink. Se conformant à la requête du Conseil d'État, l'ARCEP a ouvert cette consultation publique du 6 avril au 9 mai 2022. À ce jour, nous n'avons pas connaissance des résultats.
On peut se demander s'il convient d'être optimiste. Bien sûr, le patron de SpaceX a mis à disposition de l'Ukraine attaquée par la Russie la constellation de satellites Starlink et les stations de connexion. Mais est-ce pour autant rassurant politiquement, écologiquement et socialement ?
D'autant plus que l'Europe, soucieuse de ne pas laisser la suprématie à SpaceX et ses concurrents, met en place un projet à 6 milliards d'euros pour viser l'autonomie d'accès à Internet par satellite. Ce projet avait été rejeté à plusieurs reprises, mais la guerre en Ukraine a accéléré la volonté des 27, argumentant que c'était une question de souveraineté numérique. Même si la constellation de satellites européens prévoit de couvrir uniquement l'Europe et l'Afrique, les premiers lancements prévus en 2024 viendront s'ajouter aux dizaines de milliers de Starlink de SpaceX, aux 3200 satellites de la constellation Kuiper d'Amazon, aux 650 satellites OneWeb de l'États-Unien Greg Wheeler, tout ceci uniquement pour l'accès Internet et s'ajoutant aux milliers de satellites déjà en orbite destinés à d'autres usages. Et l'esquisse d'un règlement européen sur la gestion du trafic spatial ne serait attendue que pour 2024.
Ça ressemble à une folle fuite en avant, à l'emballement d'une machine infernale face au risque de conflit et à l'annexion de l'espace par des milliardaires. Ceci dit, nous vous souhaitons quand même de belles observations et vous donnons rendez-vous début juillet.
Au revoir.